Il y a un livre que je veux lire. C'est Matthausen, du dramaturge grec Iakovos Kambanélis. Il s'agit d'un récit de l'indicible. Kambanélis y raconte les atrocités subies par les déportés au camp d'extermination autrichien Matthausen de 43 à 45, camp dans lequel Kambanélis a été enfermé. C'est un livre que l'auteur peut-être n'a jamais eu envie d'écrire. Car qui aurait envie d'écrire sur son passé cauchemardesque, sur l'épouvante, sur les tortures dont on a été victime? Qui? Certaines et certains courageux l'ont fait, Charlotte Delbault, Primo Levi, Robert Antelme et d'autres encore, pour se sauver, par devoir, celui de témoigner, parce qu'écrire est un geste de résistance au mal, à la barbarie, un acte de sauvetage. Sans doute, oui. Mais jamais par envie. Je dois dire que les récits de l'indicible sont pour moi des ouvrages de fascination, une fascination puissante, continue, à tel point que ces livres constituent ce qu'il y a d'essentiel, de fondamental dans ma littérature. Tout le reste pourrait bien disparaître, excepté des livres de théorie féministe, ceux de Paul B. Preciado, Monique Wittig, Angela Davis, certaines poétesses comme Audre Lorde, des écrivains comme Roberto Bolaño, Annie Ernaux, Édouard Louis et quelques autres qui entrent également dans la sphère de l'essentiel des écrits ayant contribué à sauver ma vie. Cette fascination, je me l'explique surtout en regardant mon vécu. Au cours de mon existence de personne assignée fille à la naissance, née dans les années 70, il y eut le surgissement de tortures terribles dès ma naissance. Des horreurs que j'ai subies parce que je suis un bébé dit fille, et des horreurs qui malheureusement sont insupportablement fréquentes dans la société patriarco-hétéro-blanche, une société qui assassine. Des épisodes tristes qui ont constitué cet indicible, cette zone cancérigène, calfeutrée au fond de moi, ce kyste douloureux, impossible à pulvériser, à soigner, et même entretenu par la famille, par la société, pour prolonger la douleur de la fille et de la femme le plus longtemps possible et même pour toute une vie. Cet indicible est en moi. Il y a ce récit de l'indicible en moi, comme il doit y avoir d'innombrables récits de l'indicible en des millions d'intériorités de personnes oppressées. Un récit que j'ai décidé d'écrire pour sentir l'aboutissement de la souffrance, la fin de la souffrance, descendre dans la vie heureuse. Souvent, j'ai besoin de chercher la définition de mots avant de me lancer dans quoi que ce soit. Je cherche alors l'étymologie du mot « indicible », en particulier lorsqu'il est associé à la notion de récit. Wittgenstein dit « l'indicible est ce qui m'apparaît plein de mystères et que je ne suis pas capable d'exprimer ». Il ajoute plus loin « et surtout, l'indicible n'est pas représentable, l'indicible n'a aucune signification ». Je pourrais pleurer en posant mes yeux sur ces phrases, ces explications, car oui, les horreurs que j'ai subies, que nous subissons, n'ont aucun sens, aucune signification. On ne peut les relier à rien. Elles vous laissent un goût de mort, un goût de suicide possible, un goût de dégoût pour le monde et les êtres qui le peuplent. Elles vous arrachent votre vitalité, votre créativité, votre humanité, vos identités. Elle vous fabrique, vous devenez un objet, la propriété de l'autre, vous ne vous appartenez plus. Pour moi, les récits de l'indicible sont les textes des courageuses ou des courageux. Je l'ai écrit plus haut. Oui, mais il faudrait le redire et le redire encore, ne jamais l'oublier. Car il n'existe rien de plus ardu, de plus âpre, que d'extirper des scènes d'horreur du silence. Le silence étant le piège, bien entendu. Le piège tendu par les bourreaux. On l'a intégré, ce piège, par leur voix. On croit préférer le silence pour notre tranquillité. En réalité, il est le continuum logique de la douleur infligée par les agresseurs. Le silence est l'espace dans lequel les dominateurs nous jettent. Nous jettent prisonnières, toujours, et ils le savent très bien. Grâce à Audrey Lorde, que j'ai lu en 2017, j'ai su que le silence ne nous protégerait pas. Elle voulait dire, je crois, « Le silence ne nous permettra pas d'oublier, de nous défendre de nos agresseurs passés ou présents. Le silence ne nous permet pas de nous reconstruire, de vivre au lieu de survivre. » Elle voulait dire, je crois, « Le silence, c'est prolonger leur emprise. » J'avais aussi relevé et noté dans mon cahier cette phrase de Paul Celan qui m'a procuré du courage pour me lancer dans l'écriture de l'indicible. Le langage est le seul possible qui puisse dire l'impossible du réel. Mais je dois en dire davantage encore sur Audrey Lorde, car elle compte infiniment pour moi. C'est une essayiste, hein, poétesse, lesbienne, militante féministe, afro-américaine, et elle a changé ma vie en 2017 lorsque j'ai lu Le silence ne vous protégera pas. Il s'agit d'un recueil posthume regroupant ses essais, ses poèmes, dont l'idée forte de l'ouvrage serait « Rester dans le silence et prolonger la violence faite aux enfants et aux femmes. » Et de ça, il faut en sortir. Cet ouvrage m'a procuré la force de parler, de m'arracher au silence des hommes blancs, dominateurs, violents, violeurs, contrôlants et hétéros, de passer à l'action du langage. Ce livre est vraiment prophétique, nécessaire pour moi. Il m'a permis de croire que j'étais une personne courageuse, qu'en moi des forces vives sommeillaient, que je n'avais plus qu'à les réveiller et qu'elles prendraient en charge l'écriture du récit. C'est mon projet de livre à présent, et j'y suis. L'écriture a débuté. Un projet de livre qui, pour l'instant, ne rencontre nullement son titre. Je veux dire qu'il n'y a pas d'évidence. Certes, certains titres me sont venus. Il y a « Mon histoire avec le patriarcat », en référence à « Mon histoire de la violence » d'Édouard Louis. J'ai pensé aussi à « liquider la femelle », une expression qui m'est apparue un jour très clairement, car il reflétait un ressenti éprouvé à l'adolescence, alors qu'habitant encore avec la famille dans laquelle je suis née, j'ai senti la mort en moi. Mais rien ne s'impose. Ce livre n'a pas de titre. C'est un livre sans titre, un récit de l'indicible qui débute à Mauthausen en juillet 2009.
Nous traversons la campagne autrichienne en bus. Des collines verdoyantes et paisibles s'emboîtent au bourg désert et gris dans une grande harmonie régulière jusqu'à Mauthausen. Tout avance très lentement. La route est sinueuse et je peux enfin me reposer. Peut-être même que je m'assoupis sur le fauteuil, ce qui n'est plus arrivé depuis plusieurs semaines. Mon compagnon est allé s'asseoir à quelques rangées de moi, dans le véhicule. Et cette absence de contact, le regard des témoins aussi, sur moi, sur nous, me font du bien. Il équivaut, ce voyage, à de la récupération, à une forme de paix, à du répit, au milieu du marigot de mauvais traitements dans lequel le compagnon m'a plongé. Car oui, comment le formuler autrement ? Au cours de ces derniers mois, mon compagnon, père de mon enfant, s'est mis à me torturer. Je ne saurais le formuler autrement.
Nous arrivons à Mauthausen. Le bus glisse à côté d'un panneau très sobre et solennel sur lequel je lis ce nom de lieu où l'horreur s'est déroulée dans sa réalité la plus atroce. En tournant mon visage vers les rayons du soleil, tandis que le bus se gare sur un parking dont le sol est un tapis de gravier blanc, absolument désert, j'aperçois des bâtiments bas et longs composés de tôles et de briques grises, des miradors en bois sombre. Alors voilà, j'y suis. J'arrive dans un camp, moi qui ai toujours refusé de m'y rendre. Quelque chose se passe en moi à ce moment-là, au moment de cette réflexion. Et tandis que descendu du bus, je cherche des indications sur le camp, préoccupé par la nécessité de suivre à la lettre le protocole à respecter pour une visiteuse, je réalise que venir à Mauthausen est une décision que j'ai prise seule. Je réalise aussi que depuis le début de la torture, toutes les décisions me sont imposées par le conjoint. Toutes ces décisions, elles frappent comme des gifles. Elles m'ôtent mes identités, elles me nient, elles broient ma confiance. Et ici, venir ici, c'est ma première décision prise seule depuis des mois. Et ici encore, c'est ce compagnon qui me suit. Le camp semble comme suspendu au-dessus d'une colline d'un vert très doux. Les éléments qui le composent sont à peine enracinés. Il y a une irréalité très forte. Un silence douloureux et poignant qui se répand à chacun de mes pas. Il n'a rien à dire sur ce que je vois. Je veux dire, tout est là. Je pourrais nommer chaque chose, chaque objet, décrire chaque pièce, chaque salle. Mais nous savons toutes et tous ce qui s'est déroulé dans chacune de ces pièces, de ces salles, dans les couloirs, dans ces fosses et dans ces cellules. Nous connaissons la vérité, cette réalité abrutie et indicible, dépourvue de sens. Il n'y a pas de description à donner, pas d'explication à apporter. Je marche et, c'est ignoble à dire, je suis bien seule dans cet endroit protégé, écarté de mon danger mortel ici. Ici, il ne peut rien m'arriver. Ici, il ne peut pas me faire de mal. C'est inconcevable cette pensée. Pourtant, je voudrais rester ici, quitter cette vie devenue atroce à cause de lui. Et il me semble que la seule raison qui me retient de ne pas le faire, le quitter là, c'est mon enfant que je dois retrouver à Vienne le soir. Mais rien n'est plus faux. Ce n'est pas exact. Je suis dans une situation où je suis incapable de quitter cette personne qui me fait du mal chaque jour. Car ce qu'il faudrait faire, évidemment, au lieu d'être dans un camp de Mauthausen avec un conjoint torturant et destructeur, c'est le quitter sur le champ. Mais j'en suis complètement incapable. Voici la vérité la plus nue et la plus intolérable. J'ai perdu toutes mes capacités, mes forces vitales rampent, agonisent, meurent. La confiance en moi-même, la volonté, la croyance en l'avenir ont été neutralisées, pulvérisées par cet homme. Je suis devenue entièrement sa chose. À Mauthausen, parce que je ne suis plus agressée par lui, il y a des parties de moi que j'entrevois, des facettes vivantes de moi-même qui me reviennent. Il y a des fantômes de moi partout, il y a des visages de moi qui surgissent en ma mémoire. « Ah bah oui, c'est vrai que je suis ça », je me dis, surprise en regardant certains de mes morceaux. Pourtant, je sais que mes obligations m'obligeront à partir avec lui, à retrouver notre enfant, et que je serai à nouveau saisie par cette impossibilité vertigineuse d'agir. Tout me donne envie de pleurer, et une boule est constamment accrochée dans mon ventre, comme une bombe à retardement. Pourtant, si je suis détruite, étrangement, je suis imperturbablement lucide. Je suis en capacité d'analyser la situation. Par exemple, je sais que ce qui me coince avec lui, c'est que je ne parviens pas à accepter l'idée de faire éclater une famille. L'idée même de cette explosion me plonge dans une profonde dépression, un sentiment puissant, dévastateur d'échec et de grand vide. Nous sommes tellement conditionnés, je me dis, profondément façonnés par ce réflexe de maintenir à flot cette institution nécropolitique, de se plier à son régime, même lorsque ce dernier a basculé dans un régime mortel, asymétrique et profondément asphyxiant. À cette époque encore, je reste persuadée qu'en faisant éclater ce régime ignoble, je pourrais imposer de la souffrance à mon enfant. Évidemment, encore, rien n'est plus faux. Cela fait des mois que les agissements violents et ignobles de ce conjoint me détruisent, ils détruisent l'enfant témoin, et l'enfant victime souffre avec moi. Il y a une autre raison qui m'emprisonne, qui m'oblige à rester saisie dans ses griffes. Le conjoint m'a mise dans une position de dépendance financière et affective. Il m'a isolée de mes amis, de ma famille, je n'ai plus de travail, j'ai démissionné de mon poste de journaliste pour qu'il puisse faire carrière dans les sciences. Et nous sommes à Vienne, ville dans laquelle je n'ai que peu de liens avec les nouveaux amis. Je me sens absolument vulnérable, fragile, à la merci d'une personne malfaisante qu'il me semble ne plus connaître. Je coule absolument et ne sais vers qui me tourner. Il y a la psy franco-autrichienne qui m'écoute et me répète qu'il faut partir. Quand j'appelle mes amis en France, j'ai la sensation très claire qu'ils ne mesurent pas l'ampleur de l'horreur, n'ont pas idée du niveau de douleur qu'il me fait subir, n'ont pas conscience de mon état, et sans doute ne suis-je pas en mesure de communiquer le degré d'ignominie engrangé, ni à raconter les choses telles qu'elles se déroulent précisément. La honte, ce sentiment inoculé par le patriarcat depuis mon irruption dans ce monde impossible à vivre, sentiment incrusté dans toutes mes veines, dans l'ensemble de mes cellules, du sexe au cerveau, la honte barre la route à mes mots vrais. Impossible aussi, évidemment, de me rapprocher avec confiance de ma famille avec laquelle, par survie, j'ai dû prendre mes distances. C'est une famille qui a été violente avec moi, ne m'a pas donné de place parce que je suis une fille. Je suis donc seule, très seule, seule au monde face à cette violence qui s'abat sur moi. Et le conjoint le sait. Il faudrait que j'explique à ce stade la torture subie. Et c'est difficile de mettre les mots. C'est âpre d'énoncer ce que l'on a accepté de supporter, ce que le patriarcat nous a appris à prendre dans le corps, c'est-à-dire accepter la mort provenant du proche, du plus proche même. La honte encore, qui retient la vérité.
Il faudrait certainement décrire notre appartement, notre vie.
Tout a débuté en avril.
Nos amis.
Mais il faudrait certainement décrire notre appartement, notre vie, nos habitudes, nos amis, etc.
Aucun intérêt.
Mais ce décor n'a aucune importance. Ces descriptions n'ont aucun intérêt.
C'est qu'il est devenu
ce qu'il faut dire, c'est qu'il est devenu un monstre, un vrai. Son sadisme est choquant.
Par exemple,
hier soir, des voisins sont venus sonner à notre porte tellement ils me hurlaient dessus. Ils ont sonné.
Je les ai vus par l'œilleton,
mais je n'ai pas ouvert. J'ai eu honte.